Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
Ce matin au Radio-Journal, jour 2 du procès de Donald Trump, sera-t-il condamné pour outrage au tribunal? Honda préfère l'Ontario au Québec.
It'll be the largest deal in Canadian history.
Le constructeur va y développer sa filière batterie. Et Poste Canada refuse de récupérer les armes bannies par le fédéral. Ottawa est à la recherche de solutions.
Toutes sortes de partenariats pourraient être envisageables pour la collecte, le transport et la destruction de ces armes d'assaut.
Bonjour à tous, ici Marie-Christine Bouillon. Donald Trump pourrait être condamné pour outrage aujourd'hui en raison de ses attaques contre des témoins et jurés en marge de son procès à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Les débats vont par ailleurs reprendre cet avant-midi pour déterminer si l'ancien président a falsifié des documents pour cacher des paiements effectués à l'ancienne star du porno. Hier, les procureurs et les avocats de la défense ont présenté leur vision aux jurés. Azeb Weldegurgis est à New York.
La défense a affirmé que Donald Trump n'avait rien à se reprocher, qu'il n'a rien fait d'illégal, que c'était vraiment un homme comme tout le monde, un père de famille. Et par contre, évidemment, les procureurs ont tenté de démontrer que Donald Trump était en fait à la tête d'un complot, que ça allait au-delà des 34 falsifications de documents. On parle de complot entre l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, qui avec David Packer, l'éditeur du National Enquirer, qui avait un stratagème en fait pour acheter des histoires qui pouvaient entacher la réputation de Donald Trump et puis tuer l'histoire, entre guillemets. Hier, David Packer a témoigné et son rôle, finalement, ça aurait été d'effacer tous les scandales qui auraient pu compromettre l'élection de Donald Trump en 2016. Donc, en échange d'une immunité, David Packer, qui est un grand ami, un vieil ami de Donald Trump, va tout raconter à la cour et son témoignage, normalement, se poursuivra aujourd'hui. Ce matin, les procureurs accusent Donald Trump d'avoir violé l'injonction au silence à 10 reprises, que ce soit sur les médias sociaux ou autre, donc il serait passible d'une amende de 1 000 $ par violation ou même à la prison. Alors c'est ce que les procureurs vont demander au juge Merchant ce matin, parce que l'injonction lui disait de ne pas critiquer, attaquer des témoins, les membres du jury, le personnel de la cour et leur famille. Et Donald Trump n'aurait pas obéi à cette injonction.
C'était Azeb Weldegurgis à New York. Honda va développer sa filière batterie en Ontario, n'en déplaise au Québec. Le constructeur automobile japonais s'est engagé auprès du gouvernement de Doug Ford, très fier de son coup, et auprès d'Ottawa aussi, à investir des milliards de dollars. Les précisions de Valérie Gamache.
This week, we've landed a new deal.
Visiblement fier de son coup, Doug Ford n'a pas pu retenir sa langue. Le premier ministre ontarien annonce une entente historique.
The largest deal in Canadian history.
Honda se serait engagé à investir des milliards de dollars pour de nouvelles installations en Ontario. Il s'agirait d'une usine de production de matériaux actifs de cathode, de fabrication de batteries et d'assemblage de véhicules électriques. La facture, dont on ignore le montant, serait divisée en 3 entre le constructeur japonais, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement fédéral.
Dans le budget de la semaine passée, on a ajouté encore un crédit d'impôt.
La ministre des Finances, Chrystia Freeland, refuse de confirmer l'entente. Mais du même souffle, elle évoque les mesures contenues dans son budget, des crédits d'impôt sur mesure pour attirer ce genre d'investissement.
Grâce à ces crédits d'impôt, le Canada maintenant est très, très attirant.
Ainsi, le budget prévoit notamment des crédits d'impôt qui pourraient couvrir 10 % du coût de construction. Un investissement payant pour le développement de la filière batterie, croit le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne.
Le Canada est devenu une plaque tournante, autant au Québec qu'en Ontario. Je pense que la grande nouvelle, c'est qu'on a fait rentrer le Québec dans l'industrie automobile.
Pourtant, cette fois, le Québec ne fait pas partie de l'entente. Selon nos informations, la province aurait voulu accueillir une partie du projet, mais le fabricant automobile aurait été jugé trop gourmand par le gouvernement Legault. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.
Poste Canada refuse de collaborer avec le gouvernement fédéral pour son projet de racheter à leurs propriétaires les quelques 145 000 armes à feu de type militaire bannies en 2020. Radio-Canada a appris que la Société d'État refuse de jouer un rôle dans cette vaste opération promise par les libéraux il y a déjà 5 ans en invoquant la sécurité de ses employés. Les précisions de Daniel Leblanc.
Pierre Farran ouvre les portes de l'armurerie de son centre de tir en Outaouais.
Ça, ça n'est des armes prohibé, banni.
Il y a 4 ans, le gouvernement Trudeau interdisait 1500 sortes d'armes de type militaire, comme celles que Pierre Farran garde maintenant sous clé.
Je peux rien faire avec ça. J'attends. J'en ai 4 ici présentement.
Le gouvernement Trudeau a promis, il y a 4 ans, de racheter ces armes et de les retirer de la circulation. Sauf que racheter et détruire 140 000 armes au Canada, c'est compliqué. Surtout que la Société canadienne des postes refuse de les recueillir au nom du fédéral. Selon nos sources, Poste Canada dit craindre pour la sécurité de ses employés dans les comptoirs postaux, où les propriétaires seraient appelés à déposer leurs armes. La Nouvelle-Zélande n'a eu besoin que de quelques mois en 2019 pour procéder au rachat de 56 000 armes semi-automatiques. Le Canada, lui, cherche encore des solutions, dit le ministre responsable des postes, Jean-Yves Duclos.
Toutes sortes de partenariats pourraient être envisageables pour la collecte, le transport et la destruction de ces armes d'assaut.
Poste Canada n'a pas voulu commenter le dossier. Ici Daniel Leblanc, Radio-Canada, Ottawa.
Les représentants de 175 pays sont réunis à Ottawa pour tenter de trouver des solutions à la crise de la pollution par le plastique. Ils ont 5 jours pour s'entendre sur un traité international contraignant, mais comme l'explique Jean-Philippe Robillard, les négociations ne seront pas simples.
Les négociations s'annoncent difficiles parce qu'il y a 2 visions, 2 camps qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent qu'il faut réduire à la source, réduire la production de plastique. Et il y a ceux, comme les pays producteurs de pétrole, qui pensent que la solution à la pollution par le plastique passe par davantage de recyclage. Henri Bourgeois-Costa est un expert dans le domaine de l'économie circulaire.
Les États pétroliers en tête, évidemment, et puis des pays comme la Russie et l'Iran qui vont souhaiter, eux, quelque chose de plus sommaire, de plus réduit à une vision simplement du recyclage de la problématique.
C'est la 4e ronde de négociations. La dernière fois, c'est au Kenya que les négociateurs des 175 pays se sont rencontrés pour tenter de conclure un traité mondial contraignant pour éliminer la pollution par le plastique. Depuis 20 ans, la quantité de plastique qu'on produit dans le monde a doublé. On en produit maintenant 400 millions de tonnes chaque année et il y a moins de 10 % de tout ce plastique qui est recyclé. Le reste se retrouve dans l'environnement. Jean-François Guiglione est chercheur au Centre national de recherche scientifique en France.
Le constat de la pollution plastique, il est énorme déjà. La quantité de nanoplastique qu'on a dans notre sang, parce qu'on en a tous dans notre sang, malheureusement, en fait, cette concentration de nanoplastique, elle va être liée parfois à des accidents de cardiovasculaires. Donc, en fait, on commence à voir l'impact que ça a sur l'homme.
Et le but des négociations qui commencent aujourd'hui à Ottawa, c'est d'accoucher d'ici la fin de l'année d'un traité mondial. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.
Une enquête de l'équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC a mis au jour un complot en vue de vendre illégalement des équipements militaires fabriqués en Chine, à la Libye, à partir du Canada. Les suspects auraient agi par l'entremise des sociétés écrans étrangères pour effectuer ce trafic en contournant les sanctions imposées à la Libye par l'ONU. Ils travaillaient alors à l'Organisation de l'aviation civile internationale, un organisme onusien qui a son siège social à Montréal. Les policiers ont arrêté un homme de 61 ans, Fatih Benhamed Mawek, de Sainte-Catherine sur la rive sud, et ils sont à la recherche de son présumé complice, un homme de 37 ans, Mahmoud Mohamed Al-Souaye Sayé. En Colombie-Britannique, maintenant, la saison des feux de forêt est déjà commencée. Des résidents de plusieurs villes, dont Caribou, font face à des avis d'évacuation à cause d'un incendie de 1600 hectares. Afin de mieux contrer les feux, des Premières Nations renouent avec les brûlages traditionnels pour permettre à certaines plantes de mieux pousser et d'empêcher des incendies plus grands. Delphine Young.
En ce début du mois d'avril, Darlene Veil, une aînée Gitsan, observe le résultat des premiers brûlages culturels de l'année.
Nos ancêtres utilisaient le feu pour créer un habitat pour les myrtilles. Et les myrtilles ont besoin d'une combinaison de cendres des feux et d'eau pour produire des baies plus sucrées et plus grosses.
La communauté de Guitania, au nord de la Colombie-Britannique, travaille avec le BC Wildfire Department pour relancer la pratique des brûlages culturels. mais cela demande une grande préparation et la réunion de nombreux facteurs. Kevin Koch, biologiste, qui travaille entre autres avec Darlene Veil.
Il faut le temps approprié et c'est une fenêtre très spécifique qui peut survenir peut-être une fois tous les 3 ans. Et ensuite, il faut toutes les autorisations.
Ces dernières années, de plus en plus de communautés autochtones travaillent en partenariat avec le BC Wildfire Department pour relancer la pratique des brûlages culturels. Elle apparaît désormais comme une solution importante pour limiter la formation de plus grands feux de forêt qui, eux, deviennent incontrôlables. Ici Delphine Young, Radio-Canada, Guitaniao.
Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada.
Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.